Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur la matière et le matérialisme, avec un texte fondateur de Karl Marx et une question. Les conditions matérielles de notre vie déterminent-elles notre manière de penser? On pourrait penser que l'esprit est indépendant de la matière et que notre façon de voir les choses est universelle, vaut pour tous les temps et tous les lieux, sans rapport avec nos conditions de vie économiques. Le théorème de Pythagore a beau dater du temps de Pythagore, il vaut tout aussi bien pour notre temps. Force est de constater cependant que ce théorème avait pour Pythagore une signification religieuse qu'il n'a plus pour nous. Nos manières de voir semblent toujours conditionnées historiquement par nos habitudes pratiques. Une rivière n'est pas vue de la même façon par un pêcheur à la ligne, un poète et un ingénieur en hydraulique. Faut-il en conclure que l'économie et la technique déterminent les autres domaines de l'activité humaine et que nos idées dépendent de nos outils? Peut-on par exemple penser que l'idéologie trans, à la mode aujourd'hui, est un symptôme de notre environnement numérique? C'est ce que nous allons essayer de penser avec Fabrice Hadjadj en commentant un texte de Marx lu par Sifrène Michel.
Dans la production sociale de leur existence, les humains nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore, forme de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref, les formes idéologiques dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production.
Fabrice Hadjadj, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Quel est le contexte de ce texte ?
C'est un texte de Karl Marx. Alors, il est toujours très difficile de lire Karl Marx parce que Marx a été submergé par des interprétations, des surinterprétations, et notamment par le marxisme, et le marxisme-léninisme, donc un courant politique qui a eu l'impact que l'on sait sur la vie du XXe siècle. Il faut revenir toujours au texte de Marx. Et donc là, c'est un texte qui est antérieur au Capital, qui s'intitule « Contribution à la critique de l'économie politique ». Et ce texte est un texte fondamental au sens où il nous explique une chose qui renvoie sans doute à une idée qu'on trouvera dans la sociologie, c'est-à-dire que l'homme est conditionné par sa société, donc une idée qui va à l'encontre de l'individualisme. cette idée que nous serions d'abord des sujets individus avec des pensées absolument propres. Non, nous sommes d'abord pris dans une existence sociale, et c'est cette existence qui détermine effectivement nos manières de voir, nos manières de penser. Mais là où Marx franchit une étape supplémentaire qui va dans le sens de notre thème, c'est-à-dire le matérialisme, c'est qu'il estime que ce sont les modes de production, c'est-à-dire la vie, l'univers du travail, la vie économique, qui déterminent nos pensées. Autrement dit, nous ne sommes pas des anges avec, je dirais, une intelligence séparée du corps et de la matière. Nous sommes dans des corps, et notre premier rapport au monde vient de ce que nous faisons avec nos mains. Un enfant découvre le monde en manipulant des objets. Et nos pratiques, finalement, notre manière d'opérer sur la matière va marquer nos conceptions. Nous avons toujours ce que j'aime à appeler des manières de voir. Et dans l'expression « manière de voir » montre comment la main, qu'on entend dans le mot « manière », vient conditionner notre vision des choses. Et c'est ça la grande thèse de Marx, avec cette idée que, et qui va vous faire comprendre ce qu'était la révolution communiste, en fait. Marx a cette idée qu'il y a une révolution industrielle qui a eu lieu, et que cette révolution industrielle a complètement bouleversé les rapports de travail au sein de la société. Or, le monde politique, le monde juridique s'est établi sur une autre forme de société, qui était une société artisanale, une société avec des manufactures sans doute, mais pas avec des fabriques, avec des grandes machines, avec des ouvriers non qualifiés. Non, il y avait des savoir-faire, il y avait des transmissions traditionnelles de père en fils, etc. Eh bien, tout ça s'est effondré avec l'apparition de l'industrie. Et les modèles politiques, nous les héritons d'un ordre ancien. Donc, il va y avoir une transformation politique, c'est ça ce que dit Marx, qui va suivre cette transformation matérielle. La révolution industrielle, qui est le socle d'une transformation de nos vies, va aboutir, comme une infrastructure, à la transformation d'une superstructure qui va être nos modes de pensée, et notamment notre vie politique. Et c'est pour ça que la révolution communiste, pour Marx, en tout cas la révolution sociale à laquelle il appelle, c'est une transformation, je dirais, normale, et c'est la seule réponse à la hauteur de la révolution industrielle. Donc voilà, le principe, c'est que nos modes de vie pratique et nos modes de production économique vont déterminer notre philosophie, qui est toujours notre pensée, notre régime juridique et politique, qui est toujours prise dans cette trame de la production matérielle de la vie.
Fabrice Hadjadj, si les moyens de production matériels sont les facteurs uniques de toute réalité sociale, et en même temps que nous parviendrons inévitablement à ce communisme qui sera un règne de justice et de liberté, est-ce qu'on peut dire que c'est la matière elle-même qui va produire le bien ?
C'est ça qui est difficile à penser chez Marx, parce que d'un côté, Marx dit c'est un phénomène inéluctable, il y a une dialectique de l'histoire la matière elle-même, les conditions de production qui vont aboutir à une révolution communiste, et en même temps, il y a un engagement politique de Marx. Donc, il faut le faire aussi avec notre force, avec nos libertés, avec notre responsabilité. Donc ça a toujours été l'ambivalence des communistes, qui disent, de toute façon, ça va se passer comme ça, il n'y a pas le choix, entrer dans le mouvement de l'histoire. Je pense à ce texte de Fidel Castro qui s'intitulait « L'histoire m'absoudra ». Et donc, il renverse un régime politique, et puis on pourrait lui dire « t'as tué des gens, etc. » Oui, mais non, mais moi, ce que je fais, c'est dans le sens de l'histoire. Donc, vous verrez que c'était bien comme ça, que ça devait se passer. Bon, donc on voit bien qu'il y a ce problème-là. Que vaut la liberté humaine dans cette vision-là ? Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de la pensée de Marx, voire même une contradiction, qui est de dire tous les autres sont conditionnés par les modes de production, toutes les pensées jusqu'ici ont été conditionnées par les modes de production, mais moi, ma pensée va vous dire le réel. Alors elle est complètement dégagée du système matériel, et en plus, vous allez me suivre, vous allez faire le choix du communisme, parce que c'est la vérité de toute chose, et on y va de toute façon. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est effectivement contradictoire ici.
Fabrice Hadjadj, Aristote, au début de son traité de la politique, dit qu'il est nécessaire pour l'homme de pouvoir subvenir à ses besoins naturels avant de pouvoir accéder à la vie morale. Donc il faut déjà se préoccuper de la vie avant d'accéder à la vie morale. Est-ce qu'il ne dit pas ici quelque chose de semblable à Marx, dans la mesure où il y a quelque chose, ce qu'il y a de plus grand en l'homme dépend de ce qu'il y a de plus simple en lui. Les conditions matérielles sont à la base de sa vie la plus haute.
Oui, la question c'est comment comprendre l'affirmation d'Aristote. Est-ce que c'est un ordre chronologique, c'est-à-dire il faut d'abord subvenir à ses besoins et donc on cherche la nourriture, on a faim, on ne peut pas passer son temps à penser quand on a faim, vous voyez. Bon. Et alors une fois qu'on a bien mangé, à supposer qu'on n'ait pas trop mangé, parce que là à ce moment-là les torpeurs digestives vont encore empêcher de penser, mais enfin bon, une fois qu'on a subvenu à ses besoins, tout d'un coup on peut philosopher. Donc d'abord vivre et ensuite philosopher, comme dit l'adage latin. Mais là où il y a autre chose avec Marx, qui est peut-être déjà contenu chez Aristote, mais vous voyez, c'est dès lors une interprétation du passage que vous avez cité, c'est que nos manières de vivre cette vie matérielle vont marquer notre manière de penser. Donc ce n'est pas un d'abord qui est chronologique, c'est un d'abord qui est une relation d'ordre où la vie matérielle marque la vision qu'on va avoir du réel. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on voit chez Aristote, parce que sa manière de concevoir la nature est profondément marquée par un mode de vie artisanal. Quand il va distinguer les quatre types de causes, matérielles, formelles, efficientes et finales, l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple du sculpteur, ce sont des exemples qui sont pris dans l'artisanat. Donc on voit bien que sa manière de voir la nature dépend d'une certaine manière de produire des objets qui vient de son époque. Inversement, on pourrait par exemple dire que, c'est ce que dit Marx, hein, que c'est le capitalisme qui produit l'illusion de l'individualisme. D'abord parce que, le capitaliste fait l'éloge du self-made man, et alors Marx dira que Robinson Crusoe, c'est une image du self-made man, en fait, ça n'a jamais existé, l'homme qui tout seul assure tous ses besoins, survit sur une île déserte, etc. Non, ça c'est vraiment l'homme qui se construit lui-même, ça c'est la première chose. Mais de l'autre côté, quand on a un mode de vie consumériste, c'est-à-dire on ne voit plus comment les choses sont produites, on a des marchandises qui sont livrées par la grande distribution, on va au supermarché, eh bien, on n'a plus d'intermédiaire, vous voyez, on passe même à la caisse automatique. Donc, on a l'impression qu'on est seul à se procurer les marchandises et qu'on se fait soi-même et on ne voit plus toutes les solidarités sociales dont nous dépendons. Vous voyez, les intermédiaires humains disparaissent et c'est plutôt le lien monétaire, l'argent, hein, vous voyez, j'ai ma carte de crédit, mais avec cette carte de crédit, et avec la relation que j'ai à ma carte de crédit, je peux obtenir toutes les marchandises. Autrefois, déjà dans un marché, il fallait négocier avec le marchand, un vrai marché. On n'est plus dans ce qu'on appelle l'économie de marché, plutôt une économie d'absence de marché, puisqu'on ne passe plus marché avec personne. Bon, on ne rencontre plus personne, il n'y a plus de marchand. Mais surtout, on est dans cette situation où on ne voit plus comment les choses sont faites. Nous-mêmes, nous ne produisons plus les choses. Donc, le monde social et matériel passe à l'arrière-plan et on est dans ce monde de numéraire d'argent et de numérique, voilà, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire voilà, virtualisé, etc. Et donc, l'individualisme, l'idée que je suis seul, que je pourrais m'en sortir seul, que je l'ai, est un produit d'un certain type d'économie et n'est pas du tout quelque chose de naturel.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui : les conditions matérielles de notre vie déterminent-elles nos pensées ? Fabrice Hadjadj, aujourd'hui, justement, dans un monde du numéraire et du numérique, est-ce que les idéologies de notre jour semblent confirmer ce que disent, ce que dit Marx ici dans ce texte, à savoir que notre vision du monde, notre vision même de l'homme, est affectée par ce mode de production que nous avons ou que nous n'avons plus, justement?
Alors oui, ce que vous entendiez dans votre introduction, par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de fluidité de genre. Hein, voilà, donc tout le monde peut être en transition, on peut changer de sexe, on peut changer d'identité, même le rapport à la... C'est pas simplement le rapport au corps sexué, ça peut être aussi le rapport à la patrie, par exemple, hein, l'idée qu'on sommes des êtres, d'abord des citoyens du monde, comme on dit, même s'il n'y a pas de passeport du monde, hein, mais bon, on peut prétendre être citoyen du monde, il n'y a pas de nationalité mondiale. Mais cette chose-là, on peut supposer qu'elle vient d'un mode de vie complètement conditionné par Internet. Par les réseaux mondialisés, par le World Wide Web. Hein, une toile mondiale où on peut multiplier les avatars, où on peut multiplier les profils, où la matière est cette matière numérique. Et donc, de fait, à partir de là, on voit que la logique trans apparaît. Parce que le monde digital est un monde essentiellement trans. Mais ça n'est pas que cela. Par exemple, on pourrait essayer de réfléchir à la nature d'Internet autrement, comme conditionnant nos manières d'être. Donc, voilà, là, c'est des conditions matérielles de production du rapport au monde. Hein. Internet, donc on garde cette vision marxienne. Et alors, on peut dire que Internet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambivalent que ce que je viens de dire. D'un côté, dans l'origine d'Internet, vous savez, il y a une origine qui est à la fois libertaire. On voit ces types qui, dans des garages, des hippies, fabriquaient des ordinateurs, s'amusaient avec, etc. Et puis, il y a aussi une origine militaire. Il s'agissait de trouver des réseaux d'information extrêmement efficaces, même si un centre de contrôle était détruit. Il y a une gratuité d'Internet, vous allez sur Facebook, enfin actuellement Meta, et en même temps, Mark Zuckerberg se fait un fric incroyable, on ne sait pas comment on se devient riche avec de la gratuité. Oui, parce qu'on peut produire des informations, on peut les mettre gratuitement, mais après il y a une marchandisation de l'information, donc c'est un capitalisme complètement original. Ouais. Comment on devient milliardaire avec du gratuit, c'est une grande question, mais ça montre bien qu'on est dans un autre type de régime. Et puis, il y a un autre phénomène, qui est un phénomène de fluidité, l'information circule sans fin, mais aussi un phénomène de bulle, voire même de pétrification dans Internet. Puisque sur un réseau social, on procède par affinité. Donc, quand vous êtes sur votre profil Facebook, vous n'êtes en contact, généralement, qu'avec des gens qui pensent à peu près comme vous. Vous en avez deux ou trois qui font exception, bon, qui sont, vous voyez, comme... Chez les antisémites, on avait un ou deux amis juifs quand même, vous voyez, bon, qui étaient là à titre de témoin, quoi. Mais il n'y a pas du tout de vraie pluralité. Quand on nous dit, avec Internet, non seulement tout est fluide, mais vous ouvrez à la complète diversité du monde, en réalité, on s'enferme très rapidement dans une bulle. Et c'est ça qui explique, vous voyez, ce double phénomène, à la fois de fluidité, mais aussi de durcissement des positions. Aujourd'hui, on voit des choses extrêmement conflictuelles qui apparaissent, extrêmement violentes, des oppositions frontales, sans débat, qui viennent sans doute de la structure d'Internet. On peut penser que le wokisme, par exemple, hein, ce qu'on appelle la culture woke, qui voudrait mettre ensemble... justement la logique de fluidité qu'on voit dans le trans, mais en même temps une vision extrêmement substantialiste du racialisme. Vous êtes blanc, vous êtes toujours blanc, vous aurez toujours la logique d'un blanc, vous avez un lien avec les esclavagistes blancs, etc. Et si vous êtes noir, voilà. Vous savez, on peut changer de sexe, mais on ne peut pas changer de couleur. Il y a une affaire, l'affaire Rachel Dolezal, vous savez, où où une jeune femme a dirigé une grande association pour l'avancement des personnes de couleur, la National Association for the Advancement of Colored People aux États-Unis. Et on s'est rendu compte, elle était plutôt de peau mate, et puis on s'est rendu compte qu'elle avait des parents blancs. Et alors ça a été le tollé, vraiment, vous n'avez pas le droit. Bon, comment se fait-il que d'un côté tout est fluide, de l'autre côté tout est... Et comment les deux peuvent se rencontrer? Vous voyez, mais c'est cette ambivalence justement d'Internet. Donc là, oui, Marx me semble tout à fait pertinent lorsqu'il dit que c'est cela qui nous conditionne. Et alors, pour nous, c'est très important, parce qu'on pourrait croire qu'il faut lutter contre l'idéologie woke, alors qu'il n'y a pas d'idéologie, ça n'est qu'un symptôme. Derrière ce qu'il y a, c'est le dispositif d'Internet. Il faut plutôt lutter contre les appareils électroniques qui nous font entrer dans ce rapport au monde, dans ce type de rapport au monde, plutôt que de croire que le grand adversaire, ce sont des méchants idéologues libertaires qui atteignent le dernier degré du délire. Bon.
Fabrice Allage, est-ce qu'on peut penser vraiment que ces conditions matérielles, lutter contre les conditions matérielles qui conditionnent notre pensée, serait suffisant dans la mesure où, dans la reproduction, l'œuvre de 1970 de Bourdieu et Passeron, ils ont montré que le capital n'était en fait pas que matériel, mais aussi culturel, et donc se défaire des conditions matérielles s'il n'était pas suffisant dans la mesure où les conditions culturelles dans lesquelles nous avions grandi et qui formataient notre pensée, on ne pouvait pas s'en défaire pour le coup.
Oui, alors Pierre Bourdieu est un sociologue marxiste, ça c'est sûr, mais qui va aussi considérer l'aspect culturel, qui va voir justement le point de contradiction ou de faiblesse qu'il pourrait y avoir chez Marx. Dans une insistance trop grande sur la dimension matérielle comme infrastructure absolument déterminante. Même si Marx laisse entendre que la superstructure, après, rétroagit sur l'infrastructure. Il y a un double combat. Et c'est là où il faut marquer quand même sérieusement les limites de Marx. D'abord, la littérature, la pensée, nous donne accès à des auteurs du passé et donc produisent de la distance par rapport à nos conditions matérielles de vie. Alors bien sûr qu'on ne va plus lire, ce que vous disiez au début, le théorème de Pythagore comme étant lié à une religion pythagoricienne avec une conception des nombres qui est celle d'une conception religieuse. Mais malgré tout, on en est conscient de cette conception religieuse, qu'elle a existé. Donc ça nous permet de prendre du recul. Et c'est très important d'ailleurs de lire des auteurs anciens, de lire des auteurs de l'Antiquité, par exemple, pour prendre, ou du XIIe siècle, comme faisait Ivan Illich, pour prendre du recul par rapport à notre époque. Et à partir de là aussi, critiquer notre époque et parvenir à une transformation aussi, à repérer ce qui serait des idées qui ne sont pas du tout des idées libres et vraies, mais uniquement des idées qui ont pour but la reproduction d'un système, toujours le même système, ce que dit Bourdieu. Mais de l'autre côté, je pense qu'on ne peut pas lutter, par exemple, contre l'emprise d'Internet simplement par des discours, où on voit sur Internet des critiques d'Internet, et où on va aller sur des forums sur Internet pour aller contre Internet et pour dire qu'il faut se reconnecter au réel, enfin vous voyez, avec ce langage qui utilise encore le vocabulaire de la connexion, plutôt que d'entrer dans une relation de travail avec l'environnement, la nature, les matériaux, etc. Donc, je crois que la résistance... Et c'est là où Marx a raison, même s'il a tort en pensant que c'est le communisme qui est la solution, le fait qui est de détruire la propriété privée, mais de changer aussi nos manières de faire. Et à ce moment-là, nos manières de voir vont se corriger. Retrouver la main, retrouver le travail manuel, on en parlera dans la prochaine émission, justement, c'est aussi une manière, vous voyez, de prendre la distance par rapport à Internet. Retrouver la patience, dans la fabrication d'un objet avec ses mains, c'est justement ça qui nous arrache à ce mode de vie pulsionnel qu'induit nos rapports aux appareils électroniques. Donc il ne suffit pas de le critiquer moralement ou intellectuellement, il faut trouver, bien sûr, des bonnes manières de faire.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Karl Marx, Fabrice Hadjadj, Geldric Drapé, Sifrène Michel à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.